faire pour introduire ce message. Trois lectures. On commencera par le livre de l'Exode, au chapitre 35. J'aurais pu vous proposer que nous lisions tout ce chapitre, mais ça serait un peu long. Simplement le verset 29, parce qu'il résume bien l'esprit de ce chapitre. Chapitre 35 de l'Exode et le verset 29. Tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, dont le cœur était disposé à contribuer pour l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée par Moïse, apportèrent des offrandes volontaires à l'Éternel. Amen. On lit aussi dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, une parole célèbre que Jésus a prononcée à une femme, la fameuse Samaritaine. Jean, chapitre 4, les versets 23 et 24. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Et puis dans le livre de la Genèse, au chapitre 18, on va trouver une illustration merveilleuse à ce thème qui va être développé ce matin. Genèse 18, verset 1. L'Éternel apparut à Abraham, lui apparut, c'est Abraham, hein, parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut devant eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, « Vite, trois mesures de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. » Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Alors, ils lui dirent, « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit, « Elle est là, dans la tente. » L'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque. » Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer d'avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurai-je encore des désirs ? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille ? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel ? au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Amen. Gloire à Dieu. Je reviendrai tout à l'heure plus en détail sur cet épisode très intense où Dieu, dans sa Trinité, s'incarne et visite. Il visite le patriarche Abraham et on va essayer de faire ressortir quelques enseignements précieux de ce texte. Mais déjà dans mon introduction, frères et sœurs, j'aimerais dévoiler le thème que j'ai à cœur de vous développer. Ce sont les dispositions de notre cœur. J'aimerais vous parler des dispositions de notre cœur, et en particulier lorsqu'il s'agit d'apporter à notre Dieu la reconnaissance dont il est digne, la louange qui lui revient, les dispositions de notre cœur. Parce qu'au fond, on le sait bien, Dieu regarde au cœur. Vous le saviez, hein? Mais c'est bon de le rappeler, hein, quand même. Dieu n'est pas impressionné par nos sourires, nos formules, notre apparence, mais Dieu regarde au cœur. Et il regarde aux dispositions du cœur. Alors, je ne sais quelles sont les vôtres ce matin, mais Dieu les voit, parce que il sonde le cœur et les reins, nous dit la Bible. Et Dieu attachera une importance particulière à l'état de notre cœur, aux dispositions de notre cœur. C'est un domaine essentiel, un domaine qui mérite toute notre attention, parce que les dispositions de notre cœur sont fluctuantes, il faut pas grand-chose pour les perturber, pour opérer des changements, pour déstabiliser. Mais le souci de Dieu, et le nôtre aussi, doivent demeurer de maintenir en nous des bonnes dispositions. Amen. Je veux veiller et je veux tout mettre en œuvre pour garder en moi de bonnes dispositions, sachant que c'est pas facile. C'est un défi de chaque instant, parce que je le disais, il ne faut pas grand-chose pour précipiter notre cœur dans la contrariété, l'inquiétude, l'anxiété, la peur, le découragement, un coup de fil, un courrier indésirable, un événement imprévu. Il faut pas grand-chose pour troubler les dispositions de notre cœur. Cependant, c'est le domaine qui mérite le plus notre attention. Mon frère, ma sœur, l'Écriture nous dit, garde ton cœur. Amen. Veille sur ton cœur, plus que sur toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est ainsi que Dieu va porter son attention sur nos dispositions, afin qu'elles soient toujours de bonnes dispositions. Gloire à Dieu. Et si elles ont été affecté, perturbé, eh bien, le plus vite possible, eh bien, elles doivent être comme rétablies, avoir de bonnes dispositions. C'est pas facile. Je me souviens, j'ai été baptisé depuis quelques mois, et c'était le dimanche matin, je me réveille, il fallait absolument aller au culte, hein. Donc je me réveille, c'était dans une ZUP au nord-est de Lyon, à Rieux-la-Pape, et nous étions dans notre immeuble là, et je me réveille, je suis encore en pyjama, j'ouvre la fenêtre et j'écarte le volet en bois, et je vois... un spectacle typiquement lyonnais, un ciel gris avec des nuages qui disaient on est là pour longtemps, une pluie mais alors persistante, régulière, mais qui détrempait les pelouses, il y avait des flaques partout, et j'ai regardé cette scène et j'ai entendu que des oiseaux chantaient. Et ce matin, je m'étais réveillé vraiment pas avec de bonnes dispositions. Et devant cette scène maussade et le fait d'entendre quand même les oiseaux chanter, Dieu a parlé à mon cœur. Et Dieu a dit, écoute-les chanter mes louanges. Malgré la pluie, malgré l'humidité, malgré les nuages, écoute-les chanter les louanges du Créateur. Et moi qui ai donné pour ton salut mon propre fils, tu ne vas pas chanter mes louanges ? Je vous assure, Dieu, en quelques secondes, a changé les dispositions de mon cœur. Je me suis habillé, je me suis préparé et j'ai été le premier dans la voiture pour foncer au culte et j'ai béni le Seigneur. Dieu veut changer les dispositions de notre cœur lorsque celles-ci sont négatives, défavorables, afin que toutes les expressions de ma reconnaissance soient à l'honneur du Seigneur et réjouissent son cœur. Nos cantiques doivent être chantés avec de bonnes dispositions. Que quelqu'un dise amen. Nos louanges personnelles et toutes les formes de service chrétien doivent être imbibées de ce parfum d'amour pour le Seigneur, inspiré par de bonnes dispositions. J'ai trouvé David, va dire Dieu. J'ai trouvé David. Homme selon mon cœur, et qui fera et accomplira toutes mes volontés. Ce qui a attiré la faveur de Dieu vers cet adolescent ignoré de tous, ce sont les dispositions de cœur que Dieu a vues au fond de lui-même. N'est-ce pas étonnant de lire que le Seigneur dira « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. » On se dit quand même, comment ça se fait ça? Est-ce que c'est arbitrairement que Dieu aime l'un et il haït l'autre? Est-ce que c'est arbitraire? Pas du tout. L'amour de Dieu n'est pas sélectif. Dieu aimait Ésaü autant qu'il aimait Jacob. Et cependant, Dieu voyant les dispositions du cœur d'Ésaü, le charnel, et les dispositions du cœur de Jacob, un homme certainement tortueux, mais attaché à la bénédiction de l'Éternel. Alors Dieu va désapprouver l'un et il va approuver l'autre, parce qu'il a trouvé chez l'autre des dispositions. Des dispositions. Et mes frères et mes sœurs, malgré tous les progrès que nous avons encore à faire, toutes nos imperfections, toutes nos lacunes, Dieu va regarder prioritairement aux dispositions de notre cœur. Si tu as soif de Dieu, si tu as soif de voir sa gloire, si tu aspires à ce que ton existence prenne une dimension à la gloire de Jésus, si tu ne veux pas te réduire à un quotidien limité, pauvre, mais si tu veux vivre le surnaturel de Dieu, alléluia, s'il y a dans ton cœur la soif de Dieu, s'il y a une aspiration profonde, des dispositions semblables le réjouissent. Et alors, eh bien, à ceux qui ont soif, Dieu donne en abondance son eau vive. Amen. Et il rassasie ceux qui ont faim de lui, que le Seigneur soit béni. Les saintes écritures sont remplies d'exemples où des hommes, des femmes, portés par des dispositions bonnes, eh bien, ont glorifié le Seigneur. Et puis d'autres, à l'inverse. Simon le pharisien invite Jésus à table, Pendant le repas, une femme intervient et elle mouille les pieds de Jésus de ses larmes, elle embrasse les pieds de Jésus, elle est là et Jésus tire une leçon publiquement. Il dit « Simon, Simon, viens » et tout le monde l'entend. « Lorsque je suis entré chez toi, Simon, malgré le fait que tu m'aies invité, tu ne m'as même pas donné d'accolade, de bon accueil. Tu ne m'as même pas proposé de rafraîchir et de nettoyer mes pieds et mes sandales de la poussière du chemin. Mais tu vois cette femme, depuis qu'elle est là, elle ne cesse d'embrasser mes pieds et de les mouiller de ses larmes. Et le Seigneur Jésus va donner ici un enseignement avec une comparaison entre le service froid et insipide de Simon qui l'invite, mais qui apporte là un service sans saveur, et puis les dispositions pleines d'amour et de reconnaissance dont témoigne cette femme. Regardez ce que Jésus dira à la porte de la synagogue lorsqu'il verra cette petite dame courbée qui va jeter juste une pièce, une pauvre pièce dans le tronc. Il va mettre en évidence les dispositions de son cœur. C'est pas une tenue comptable qui intéresse le Seigneur, mais les dispositions de son cœur. Elle a donné de son nécessaire. Elle a donné plus que les autres. Et puis, il y a cet exemple de ce gosse qui vient et qui propose tout son repas. Il y a des élans merveilleux dans les Saintes Écritures et ces élans de consécration qui portent à donner au Seigneur, eh bien, sont inspirés par les bonnes dispositions. Quand je donne au Seigneur, je ne l'enrichis pas, hein. C'est lui qui m'enrichit. Mais je l'honore, je le réjouis, et je lui prouve que pour moi, il est mon tout. Je lui dois tout, et je l'aime d'un amour absolu et exclusif. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Il y a donc cette séquence avec Abraham, et je voudrais tout au long de ce paragraphe que nous avons lu ensemble relever quelques dispositions, quelques bonnes dispositions qu'Abraham va manifester. Il est là, il fait très chaud, c'est même le moment le plus chaud de la journée. Il est assis à l'entrée de sa tente, là certainement où il y avait un petit peu d'air qui circulait, là, à la fraîche, si on peut appeler ça comme ça, hein. C'était le moment de la journée où tous les orientaux étaient à l'horizontale, dans une sieste réparatrice, et c'est à ce moment-là que Dieu choisit de visiter Abraham. La Bible nous dit, l'Éternel, lui, apparut. Abraham a découvert brusquement que le Seigneur était là. Le simple fait qu'il ait vu ces trois hommes qui, je le répète, représentent une incarnation de la Trinité divine, c'est Dieu, c'est l'Éternel qui visite Abraham, le simple fait que le grand Dieu du ciel l'honore de sa présence bouleverse cet homme. Et il va manifester des dispositions exemplaires. Et je prie pour que ces mêmes dispositions habitent dans mon cœur et aussi dans le tien. Que nous soyons toujours portés et transportés par ces dispositions. Vous savez, d'une manière naturelle, Abraham aurait pu exprimer des dispositions moins glorieuses. Il aurait pu dire, ça fait 24 ans que j'attends le fils que tu m'as promis et il est toujours pas là. Il aurait pu déverser son amertume, des expressions de frustration. Ce sont des dispositions exemplaires qu'il va manifester par le simple fait que Dieu est là. Frères et sœurs, j'aimerais citer en première position cette réalité qui devrait vraiment être fortement ancrée en nous, la valeur de la grâce que Dieu nous fait. Il nous honore de sa présence. Amen. Je pense que on récite trop facilement et trop mécaniquement certains textes bibliques qui mériteraient par l'action du Saint-Esprit en nous que nous ayons une prise de conscience de la valeur de ce qu'ils expriment. On dit trop facilement, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Je crois que le Saint-Esprit voudrait nous arrêter. Comme Dieu le dit dans le psaume 46, verset 10, arrêtez, arrêtez, arrêtez et sachez, prenez conscience, sachez que je suis Dieu, mes bien-aimés, le grand Dieu sauveur est présent parmi nous. Il est là, le glorieux ressuscité est au milieu de nous ce matin. Et nous le savons, là où Dieu se trouve, il peut se passer les plus grands miracles, les choses les plus merveilleuses. Voyez-vous, la première qualité que Abraham a exprimée ici, c'est la prise de conscience de la valeur du fait que Dieu est là, la présence de Dieu. Mes frères et mes sœurs, ce qui a toujours fait la différence entre l'évangile que l'Église proclame et les opinions et les religions du monde, c'est la présence de Dieu. Tant d'édifices religieux se vident et deviennent des musées, mais dans les rassemblements des enfants de Dieu où la présence de Dieu est réelle, il se passe des conversions, des délivrances. Les toxicomanes deviennent des saints. Des couples brisés sont ressuscités, alléluia, parce que Dieu est présent. Des incrédules, des moqueurs, des revêches, des rebelles sont convaincus. Leur résistance s'effondre et il y a des larmes de conversion et de repentance parce que tout simplement, Dieu est présent. Amen. Que le Saint-Esprit nous donne de prendre la mesure, si c'est possible, de la grandeur de la grâce que Dieu nous fait. Il est là. Amen. Et mon âme doit tressaillir. Et toutes les expressions dont je suis capable doivent être transcendées parce que Dieu est là. On peut chanter qu'il est digne et ne pas le vivre vraiment. Mais moi, je veux le vivre de tout mon cœur. Mon Dieu est digne. Alléluia. Il est digne que je lui apporte le meilleur de ce que je suis capable de lui apporter, le meilleur, la louange la plus sincère, les élans les plus nobles du don de ma personne. Il est présent, réellement présent. Quelle grâce et quel honneur. Et qui sommes-nous pour qu'il nous honore de la sorte? Alors, il prend conscience de la valeur de ce qu'il est en train de vivre et la Bible me révèle quelques dispositions. Je vais les énumérer. La première que j'énumère, c'est la promptitude. La promptitude, c'est une bonne disposition. On peut appeler ça aussi le zèle. Mais moi, je relève au verset 6, Abraham alla promptement. La promptitude. Je vois que ce patriarche qui était installé confortablement, brusquement, va entrer dans des démarches. La Bible dit, il courut vers eux. Il courut. Le patriarche court. Il a 99 ans, hein, mais il court. Moi, quand j'essaie de marcher un peu, j'ai 30 ans de moins, mais je m'essouffle. Mais lui, il court. Porté par ses bonnes dispositions, il court. Il donne des consignes. Il va promptement et il est diligent. Il va vers son troupeau, il entreprend, il donne des ordres. Voyez-vous, la promptitude. Je me demande si vous et moi, nous n'exprimons pas trop souvent de la lenteur. De la lenteur. Pourquoi ? Mais parce que il y a en nous des résistances. Toutes sortes de résistances. Et il y a peu de temps en arrière, nous étions dans un culte sur Nîmes et un frère rendait son témoignage et nous disait « J'ai rencontré Jésus, mais j'ai mis 14 ans pour prendre le baptême. » Pourquoi ? Parce qu'il y avait en lui des résistances. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a manqué de promptitude. Hein. 14 ans se sont écoulés, n'est-ce pas ? Mais Dieu, patiemment, a dû détricoter ses résistances, enlever ses récalcitrances. Il y avait tant et tant de choses en lui qui faisaient obstacle. Eh bien, ce matin, que le Seigneur suscite en nous la bonne disposition de la promptitude. Quand Dieu t'appelle, réponds-lui promptement. Amen. Faites-moi un gros amen. Amen. Il dira, Abraham, me voici. Amen. C'est au chapitre 22, si je ne me trompe pas, de la Genèse. Abraham, me voici. La promptitude. Tous les faux prétextes que tu exprimes dans le but de repousser, de décaler, de retarder les choses, doivent être balayés par l'action de la parole de Dieu ce matin et par l'action du Saint-Esprit. Quand Dieu t'appelle, réponds promptement. Jésus marche et il appelle André et Pierre, suivez-moi, mais aussitôt ils laissent leur filet et ils le suivent. La promptitude. Amen. Ne remets pas à plus tard, ne dis pas lorsque j'aurai réglé ce dossier, élucidé cette affaire, quand j'aurai atteint tel objectif matériel, personnel, familial, professionnel, que sais-je encore, alors le moment viendra où je répondrai à l'appel de Dieu. Mais quand Dieu t'appelle, réponds de tout ton cœur, promptement, simplement, me voici Seigneur. Me voici, je suis disposé et disponible pour entrer dans ton appel, que le Seigneur soit béni. Alléluia, la promptitude qui découle de la victoire sur nos peurs, nos rétractations, nos blocages, tant et tant de choses voudraient nous induire dans des digressions, des pertes de temps, des déperditions d'énergie, eh bien, que ce matin, le Saint-Esprit suscite en toi la qualité de la promptitude. Aime-le, donne ta vie, entre dans son programme, dans sa volonté, alléluia, et balaye les excuses, les arguments. Gloire à Dieu, je me souviens de ce couple âgé, je peux les comprendre, mais ils étaient là, ils ont été touchés par le Seigneur. Lui, fortement diabétique, a été guéri par le Seigneur dans un village de Haute-Loire où nous ouvrions une annexe. Et tous les soirs, les mercredis soirs, il venait aux réunions, sauf que il venait en rasant les murs, parce que la peur du « quand dira-t-on » était fortement enracinée en eux. Et voyez-vous, ils ont été bénis de mille manières, mais ils ont manifesté cette difficulté à entrer pleinement dans le salut de Dieu parce que en eux, il y avait des retenues, des entraves, des liens, des choses qui voulaient les tenir attachés à leur passé. Un jour, alors que je les visitais, ils m'ont dit, écoutez, pasteur, Dieu nous a bénis, mais lorsque nous pensons au baptême, il y a une pensée qui nous bloque. Nous avons l'impression de trahir la religion de nos aïeux. Le père du mensonge a l'art de susciter en nous diverses retenues, diverses entraves, mais que ce matin, la parole de Dieu rompe les entraves et te donne de répondre avec promptitude à l'appel du Seigneur. La deuxième bonne disposition que je trouve chez le patriarche, c'est que ce qu'il a apporté à Dieu, c'était le meilleur, la qualité meilleure. Lui-même est allé choisir dans son troupeau le veau le meilleur, tendre et bon. Oh, il aurait pu prendre un vieux bovin à la retraite avec une chair immangeable. Il a pris le meilleur. Et il va demander à Sarah de prendre de la fleur de farine, le meilleur. Il va prendre une réserve de crème. Il va donc apporter à son Dieu une offrande de qualité, la meilleure dont il était capable. Il y a des épisodes dans le peuple d'Israël où ce fut le contraire, où les Israélites donnaient des animaux borgnes, infirmes, boiteux. Mais là, je trouve une bonne disposition de donner le meilleur, l'excellence pour le Seigneur. Est-ce qu'il mérite le meilleur, le Seigneur ? Amen. Est-ce qu'il mérite le meilleur ? Moi, je le transpose sur les diverses manières de servir Dieu. Je parle pour moi, par exemple, voyez, la prédication est un exercice tellement important. Et je vous le dis en toute simplicité, à chaque fois qu'il m'est possible de venir apporter la parole de Dieu, je dis, Seigneur, mets dans ma bouche tes paroles, et qu'aucune parole profane n'interfère avec tes paroles. Je veux apporter le meilleur à tes enfants, le meilleur. Et que chacun dans son service, il y a ici de bons musiciens, il y a des frères qui nous conduisent dans les chants, il y a aussi les bien-aimés qui assurent la technique, et puis les enfants, les ados, et merci à Joanne et à Fabien pour la jeunesse, hein, ils s'occupent de tout leur cœur de la jeunesse, et dans tous les registres qui nous permettent d'exprimer à Dieu quelque chose. Nous devons faire le meilleur. Amen. Le meilleur. Seigneur, je veux maintenir la saveur, le parfum, la fraîcheur, la qualité de mon service, parce que tu en es digne. Mon frère, ma sœur, n'apporte rien de rance, de rassis, de vieillis, d'appauvri. Dans les Lamentations de Jérémie, Dieu va dire « Les nobles fils de Sion, semblables à de l'or pur, ont perdu leur éclat. » Moi, je ne veux pas que mon service perde son éclat. Mon frère, ma sœur, laisse le Saint-Esprit redonner à ton service la saveur qui doit toujours la caractériser. Ne sers jamais ton Dieu avec ennui, avec contrainte, avec religiosité, avec traditionnalité, mais laisse le Saint-Esprit renouveler la qualité de ton service pour le Seigneur, il en est digne. La qualité, la meilleure, a été offerte à ces trois visiteurs. Et puis, une troisième bonne disposition que je trouve chez Abraham, après la qualité, la quantité. La quantité. Un veau entier pour trois personnes. Ça va, hein? Alors peut-être Sarah lui a dit, écoute, non, mais garde-en un petit peu au congèle, que ça nous fasse quand même jusqu'à la fin du mois, quoi. Hein. Maintenant, pas de calcul. Un service sans calcul. Pas de limite chiffrée, quantifiée. Une quantité qui nous parle finalement d'une générosité sans limite. Quelle bonne disposition. Ne calcule jamais ce que tu offres au Seigneur. Ne compte jamais ce que tu offres au Seigneur. Ne compte pas les heures que tu consacres, les kilomètres que tu fais. Un jour, dans une phase un petit peu négative, un couple me disait « Ah, cette sœur, elle nous remercie d'une manière vraiment, vraiment désobligeante. Vous vous rendez compte, tous les kilomètres que nous faisons pour passer et la véhiculer au culte, c'est tout juste si sur un carnet rouge, il ne comptabilisait pas les kilomètres. » Non, ne compte pas pour le Seigneur, ne calcule pas, mais donne généreusement. Amen. Qui veut être généreux pour le Seigneur ? Donne généreusement. Donne sans imposer de limites. Au-delà, Seigneur, donne au Seigneur. Parce qu'en donnant au Seigneur, encore une fois, tu ne l'enrichis pas, tu l'honores. Lui t'enrichit. Alléluia. Il y a une quantité, vous rendez compte, 3 mesures de farine, c'est 36 litres. Et il dit à Sarah, tu fais des gâteaux avec 36 litres de fleurs de farine. Mais il y avait de quoi, je crois que Gabi Lacaze, il serait content pour la colo. Hein. Il y a de quoi nourrir une colo, plusieurs colos, un veau, de la crème. Quelle abondance, mes amis, pour 3 hommes, quelle abondance. C'est, oh, que le Seigneur élargisse nos cœurs ce matin et qu'il mette de bonnes dispositions. Ne calcule pas ce que tu offres au Seigneur. C'est toute ta vie qui lui appartient et qui lui revient. Alléluia. Et puis, 4e bonne disposition, c'est vraiment frappant. C'est frappant. L'humilité d'Abraham. Vous vous rendez compte? Il offre un festin surdimensionné, mais lui, quand il parle de son offrande, il dit, je vais préparer un morceau de pain. Vous prendrez bien un morceau de pain. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est une expression qu'on rencontre souvent en Arménie. Passer à la maison, on va manger un morceau de pain. Mais alors, c'est plus qu'à Aubagne. Hein. Un morceau de pain en Arménie, c'est une table surchargée de très très bonnes choses en plus. Hein. Quand il parle de lui, quand il parle de son offrande, quand il parle de sa démarche admirable, il en parle avec beaucoup d'humilité. Je pourrais paraphraser en disant, j'ai apporté au Seigneur un morceau de pain, un bout de pain. Frères et sœurs, n'oublions jamais que tout ce que nous pourrons faire pour la gloire de Dieu, ce ne sera jamais que les conséquences de la grâce qu'il nous fait. Que ce n'est pas par nos valeurs, nos mérites, notre savoir-faire. L'apôtre Paul disait, nous ne sommes pas capables par nous-mêmes de concevoir quelque chose. Tout ce que nous pouvons faire, eh bien, c'est par sa grâce. La vraie humilité, qui est au fond que du réalisme, parce que être humble, c'est être réaliste. Hein. Dieu ne nous demande jamais de nous abaisser, de nous diminuer. Non, il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Voilà, Paul disait, par la grâce qui m'est donnée, je suis ce que je suis. Voilà. Mais c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas nos efforts ni nos capacités naturelles. Et puis, je constate aussi une chose, avant de terminer, je constate que ces qualités, ces bonnes dispositions que Abraham a manifestées, la promptitude, le zèle, eh bien, tout ça, ça a été communicatif. Parce que je lis dans ce beau passage que son propre serviteur, au verset 7, son propre serviteur se hâta de la prêter. C'est-à-dire que son zèle s'est communiqué à son serviteur. La paresse est communicative, mais le zèle, merci Seigneur, l'est également. Et je prie pour que notre zèle puisse se communiquer mutuellement et que nous formions ensemble une église zélée, une église bien disposée. Et lorsque ces bonnes dispositions sont affectées, ce sera ma conclusion, Dieu a le pouvoir de les restaurer et de les relever. Et puis voilà, et la Bible nous dit en conclusion de cette première partie de chapitre, « Et ils mangèrent ». Et vous savez, hein, au verset 8, et vous savez que ça nous parle de communion. Manger, très souvent dans les Écritures, exprime la notion d'une communion. Et Abraham se tient à leur côté, il est tout près d'eux, et eux, ils mangent. Et là, mes amis, j'aurais bien voulu y être, parce que certainement, il y avait une atmosphère de bénédiction. Sans parler, il y a eu un temps d'une intensité merveilleuse. Moi, je prie pour que cette même intensité caractérise nos cultes. Amen. Que nous soyons là, imprégnés profondément de la présence du Seigneur. Et ils mangèrent. Et vous savez, quand il y a toutes ces bonnes dispositions, eh bien, ça engendre, eh bien, ce qui s'est passé ici. À un moment donné, après avoir bien mangé paisiblement dans cette atmosphère spirituelle et tellement intense, à un moment, ils lui dirent, « Où est Sarah, ta femme ?» Et une question à laquelle, je pense, Abraham ne s'attendait pas, ben, elle est là derrière. Et voici ce que l'Éternel dit à Abraham au verset 13. « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. » Et de tout mon cœur, je prie pour que cette question, en fait, la réponse est dans la question. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel, puisse se graver dans ton cœur? La réponse, elle est évidente, non, il n'y a rien d'étonnant de la part de Dieu. J'aimerais profiter de ces moments pour t'encourager à t'attendre à des choses étonnantes de la part de Dieu. Elles sont étonnantes parce qu'elles dépassent le rationnel, mais elles ne sont pas étonnantes parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Amen. Il n'y a rien d'étonnant de la part de Dieu, mes amis. Rien ne doit le limiter. Ne mettons pas des frontières et des contraintes à la toute-puissance de Dieu et à sa sagesse infiniment varié. Gloire à Dieu. La Bible dit, tout ce que le Seigneur veut, il le fait. Il n'y a rien d'étonnant. Et dans ta vie, Dieu veut manifester son pouvoir étonnant, mais qui ne doit pas nous étonner, parce qu'il est Dieu. Il nous dépasse, il nous transcende. Alors, chaque fois qu'il exprime sa toute-puissance, ça alimente notre émerveillement, notre adoration, et nous l'adorons de tout notre cœur. Attends-toi à l'inconcevable, à ce que ton cerveau ne peut pas concevoir, à ce que le rationnel ne peut pas envisager. Car ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, en particulier dans le contexte que tu traverses. Amen. Regarde ton problème en face et rappelle à ton cœur qu'il n'y a rien d'étonnant de la part de Dieu. Et que tes analyses bien imparfaites sont souvent en décalage avec son pouvoir tout-puissant. Nous le savons, mais il est bon de le rappeler, un mot de sa bouche et tout change. Amen. Seigneur, prononce un mot ce matin en faveur d'un de tes enfants. Amen. D'un frère, d'une sœur, d'un couple, d'une famille, un enfant malade, que sais-je, une situation professionnelle compliquée. Seigneur, dis un mot et les choses changent, que Dieu soit béni. Alléluia. J'aimerais terminer ce message, frères et sœurs, en revenant sur cette question, quelles sont les dispositions de nos cœurs? Notre cœur peut être préoccupé, fatigué, inquiet, contrarié, attiédi, peut-être sclérosé de religiosité, puis on peut prolonger la liste trop nombreuse des mauvaises dispositions. Notre cœur peut être partagé comme le fut celui de Salomon à la fin de sa carrière. Son cœur ne fut plus entier à l'Éternel. Un symptôme inquiétant. Les dispositions de nos cœurs peuvent varier très facilement. Deux choses à savoir. Dieu veut et peut susciter et maintenir en nous de bonnes dispositions. Dieu le peut et Dieu le veut. La deuxième chose, elle nous incombe parce que nous avons aussi notre part. Nous avons notre part. La Bible, on aurait pu citer d'autres exemples, mais en parlant du roi Roboam, le fils de Salomon, écrit ceci, il fit le mal car il ne disposa pas son cœur à chercher l'Éternel. Nous avons un pouvoir redoutable, c'est celui de disposer nos cœurs ou de ne pas le disposer. Si tu prends conscience ce matin d'un besoin personnel de retrouver de bonnes dispositions, alors dispose ton cœur. Amen. Comme David se prêche à lui-même. Il parle à son âme. Pourquoi t'as battu au-dedans de moi mon âme? Vous voyez, son âme est abattue, donc mal disposée, mais David réagit. Pourquoi t'as battu au-dedans de moi mon âme? Bénis l'Éternel, car je le louerai encore. Alléluia. Il y a la part de Dieu, par sa parole, par l'action du Saint-Esprit, mais il y a aussi ta part. Ne subis pas ton état mal disposé, mais réagis. À l'inverse de Roboam, qui est resté comme cela, passif, réagis, prêche à ton cœur, mais dis-lui, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ressaisis-toi, parce que devant l'amour admirable que Dieu a manifesté à ton égard, tu as tellement de raisons de le louer et de le bénir, et remets-toi à bénir le Seigneur, à le louer, à proclamer sa grandeur. Alléluia, que Dieu soit béni. Et dans les moments d'abîme, de grosse culpabilité, le même roi, le roi David, apportera cette prière admirable. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Est-ce que quelqu'un voudrait faire sienne cette prière de David ? Seigneur, je prends conscience que j'ai fléchi, j'ai baissé en zèle. Seigneur, je me souviens lorsque j'étais bouillant pour toi. Rien n'était trop pénible pour te glorifier. J'étais transporté par un élan, un zèle. Et là aujourd'hui, Seigneur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Vous croyez qu'il va le faire ? Il va te visiter, mon frère, ma sœur. Et par l'action miraculeuse du Saint-Esprit, il va bénir les dispositions de ton cœur. Alléluia. Je termine avec cette dernière lecture. On va projeter ce texte dans le livre du prophète Agé, au chapitre 1, à partir du verset 12 et jusqu'au verset 14. Ces paroles du prophète interviennent dans un moment où le peuple était mal disposé. Mal disposé parce que chacun pensait à soi-même, à son aboutissement matérialiste, à son enrichissement personnel. Chacun s'était faussement persuadé, non, le temps n'est pas venu de reconstruire le temple de l'Éternel. Vous voyez, ils étaient mal disposés. Alors, Dieu suscite le prophète Agé, qui prophétise, et suite à la parole prophétisée, nous lisons ici au verset 12, Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Jotsadak, le grand sacrificateur, et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Adjé, le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Adjé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, « Je suis avec vous, dit l'Éternel. » Et verset 14, l'Éternel réveilla. Dans ce verbe, on pourrait traduire, l'Éternel anima d'un nouveau zèle. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jotsadak, le grand sacrificateur, et l'esprit de toute l'église d'Aubagne. C'est écrit comme ça, enfin, on peut en déduire quand même, non ? Il réveilla l'esprit de tout le reste du peuple. Conséquence, ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Que le Seigneur le fasse ce matin. Voulez-vous que nous nous recueillions un instant ?